VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toute le monde aujourd'hui, édition du vendredi 28 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Mauritanie, déclaration attendue aujourd'hui de Mohamed Cheikh Ould Ghazouani pour remercier son équipe de campagne et ses soutiens.
En Algérie, les tenants d'une période de transition sont accusés de chercher à protéger les réseaux de corruption par le chef d'état-major de l'armée.
En République démocratique du Congo, un éboulement a fait des dizaines de morts hier à Kolwezi, dans la province du Lualaba.
Le sommet du G20 s'est ouvert aujourd'hui à Osaka, au Japon.
Deuxième débat télévisé hier soir ici aux États-Unis entre candidats démocrates à la présidentielle de 2020.
Ne manquez pas notre journal de la CAN en sport. Pour l'instant, le journal.
En Mauritanie, discours aujourd'hui du candidat du pouvoir à la présidentielle de samedi dernier, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, donné vainqueur au premier tour selon les résultats provisoires. Ce sera pour remercier son équipe de campagne et ses soutiens, a dit un de ses porte-paroles. La situation était cependant calme hier à Nouakchott, sans présence visible des forces de sécurité dans le centre de la capitale. Les mises en garde du gouvernement contre toute manifestation non autorisée ont dissuadé les candidats de l'opposition de tenir une marche de protestation contre ces résultats. Et le réseau Internet, coupé depuis mardi après-midi, restait inaccessible.
En Algérie, le chef d'état-major de l'armée a accusé hier ceux qui appellent à une période de transition de chercher à protéger les réseaux de corruption que la justice, avec l'appui de l'armée, cherche à démanteler. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Le général Ahmed Gaïd Salah a dénoncé les parties malveillantes qui déstabilisent la justice en demandant que les nombreuses enquêtes anticorruption lancées depuis le départ de M. Bouteflika contre d'anciens proches soient reportées jusqu'après les élections d'un nouveau président. Ceux qui veulent instaurer des phases de transition veulent protéger la corruption, regrette le général Gaïd Salah. Il n'y aura point de concession ni de report dans le processus de lutte contre la corruption, a-t-il martelé, indiquant que celle-ci se poursuit. Suivra avec résolution, rigueur et constance avant et après la présidentielle censée élire un successeur à M. Bouteflika. La justice a ouvert de multiples enquêtes contre des hommes d'affaires et d'anciens responsables liés à M. Bouteflika. Certains ont été placés en détention préventive. L'instauration d'instances de transition débarrassées de tous les fidèles de l'ancien régime avant une présidentielle est l'une des principales revendications du mouvement de contestation qui a poussé M. Bouteflika à la démission le 2 avril.
Au Soudan, le principal mouvement de la contestation a annoncé hier avoir reçu une nouvelle initiative de transition établie par les médiateurs de l'Éthiopie et de l'Union africaine, alors que le bras de fer se poursuit avec les généraux au pouvoir. Ces derniers avaient demandé à Addis Abeba de revoir son plan initial en rédigeant un document commun avec l'Union africaine. Les négociations entre la contestation et le Conseil militaire de transition qui dirige le pays depuis la destitution en avril du président Omar el-Béchir doivent dessiner la future période de transition après tant de régimes autoritaires.
L'ONU et des ONG ont tiré hier la sonnette d'alarme sur les violences au Sahel qui, selon elles, ont provoqué une situation d'urgence humanitaire sans précédent avec des millions de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire ou étant déplacées à cause des groupes armés. La chef du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a donné une conférence de presse sur cette situation hier à Dakar.
En Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié, aujourd'hui dans l'opposition, maintient ses propos controversés sur les étrangers. En ouvrant hier une réunion du bureau politique de son parti, le PDCI, M. Bédié a accusé le gouvernement de son ex-allié Alassane Ouattara de vouloir le museler. Début juin, l'ancien président avait dit, après des violences meurtrières intercommunautaires dans le centre du pays, « On fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui, mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. » Fin de citation.
En République démocratique du Congo, un éboulement a eu lieu hier à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Les bilans donnés vont de 36 à 46 corps retrouvés par les secours dans la concession privée de Kamato Copper Company. Notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, fait le point.
L'éboulement s'est produit jeudi dans la matinée dans la concession minière de Kamoto Copper Company dans la partie appelée Cove où des centaines de creusers clandestins ont pénétré pour y exploiter les minerais malgré l'interdiction. Après ce grave accident, les secours s'organisent avec un bilan provisoire. 36 corps ont été retrouvés. Le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyejemongezmans, nous fait l'état de la situation. Aux dernières nouvelles, les bilans est revu à la hausse. 46 corps ont été retrouvés sur les sites Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le sommet du G20 s'est officiellement ouvert aujourd'hui à Osaka au Japon. Une réunion à grands enjeux sur fond de fracture entre les dirigeants du monde sur le commerce et le climat notamment. Des entretiens sont prévus entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en marge de ce sommet, tout comme entre M. Trump et le leader russe Vladimir Poutine qui ont déjà entamé leur discussion bilatérale. Le point avec Raissa Gironde.
La vaste cité portuaire accueille la réunion des dirigeants des 20 premières puissances du monde. Le président américain aura une série d'entretiens bilatéraux, en particulier demain samedi, avec son homologue chinois Xi Jinping, sur fond de tensions commerciales. Ce sera une sorte de sommet dans le sommet. Donald Trump doit également s'entretenir à Osaka avec Vladimir Poutine, notamment sur la crise autour de l'Iran. Téhéran a mis en garde jeudi contre les idées fausses du président américain qui a évoqué hier la possibilité d'une guerre courte des États-Unis contre l'Iran. Le président français Emmanuel Macron a promis à Tokyo qu'il fera le maximum pour éviter une escalade militaire entre l'Iran et les États-Unis. Rédiger le communiqué final du G20 sera une mission presque impossible. L'administration Trump tire à boulet rouge sur l'Allemagne, rejette l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien après avoir rejeté l'accord de Paris sur le changement climatique.
À noter que le président chinois Xi Jinping a rencontré à Osaka trois de ses homologues africains, le sud-africain Cyril Ramaphosa, l'égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le sénégalais Macky Sall.
Ici aux États-Unis, deuxième acte hier soir du débat télévisé des candidats démocrates dans la course à la présidentielle américaine de 2020. Joe Biden, l'actuel favori des sondages, a été appelé par ses adversaires à passer le témoin. Précision de Jean-Roger Bion.
L'ancien vice-président sous Barack Obama a parfois fait l'objet d'un tir groupé de la part des autres candidats sur le plateau. Joe Biden, âgé de 76 ans, a été notamment attaqué sur son âge et invité à passer le témoin, une fois même mis dos au mur par la sénatrice Kamala Harris. Cette africaine-américaine et ancienne procureure âgée de 54 ans s'est fait remarquer sur l'immigration et la santé avec des interventions déterminées remplies d'émotions. Joe Biden, pour sa part, a directement accusé le républicain Donald Trump d'avoir mis l'Amérique dans une situation horrible, dénonçant la réforme fiscale introduite par le locataire actuel de la Maison-Blanche, tandis que le sénateur indépendant Bernie Sanders, qui revendique le titre de socialiste démocrate, a ouvert le débat en dénonçant les inégalités économiques. Le maire homosexuel de South Bend, dans l'Indiana, Pete Buttigieg, a dénoncé les séparations de familles à la frontière mexicaine ordonnées un temps par l'administration Trump en critiquant particulièrement le parti républicain qui aime se draper dans un discours religieux. 10 premiers candidats s'étaient déjà opposés mercredi soir, une première manche marquée par la confirmation du statut d'Elizabeth Warren, égérie de la gauche du parti, parmi les principaux prétendants de la course.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la CAN, présenté par Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. 3 matchs au programme de ce soir, dont 2 chocs. La Tunisie et le Mali croiseront les crampons à 14h30 temps universel. C'est une affaire d'aigle. En effet, aigle de Carthage et aigle malien ont tous remporté leur premier match et visent une qualification directe pour les 8e de finale. En cas de victoire côté malien, le coach dit garder le même état d'esprit que celui qui a prévalu face à la Mauritanie.
Nous sommes venus avec nos armes, nos outils, notre esprit aussi. Donc gardons le même état d'esprit. Comme je l'ai dit, le match contre la Mauritanie s'est déjà passé. On a mis le résultat, ce que nous avons acquis dans notre judiciaire, et nous avons fermé. Et maintenant, nous sommes dans le combat et avec le même état d'esprit qui nous a amené au Caire.
Mohamed Magasouba, sélectionneur du Mali. Après ce choc, un autre encore plus alléchant aura lieu à 17h temps universel. La Côte d'Ivoire fera face au Maroc. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas minimise l'enjeu de cette rencontre. Écoutons Hervé Renard.
Plus important, c'est la qualification. Bien sûr, c'est toujours ou souvent préférable de terminer en pole position. Mais parfois, on ne choisit pas. Hein. Surtout dans une confrontation de haut niveau en Afrique comme celle de demain. Donc, soyons prêts. Les Ivoiriens seront prêts. Et on espère pouvoir se qualifier. Les deux équipes, c'est ce que je souhaite à la Côte d'Ivoire et c'est ce que je souhaite au Maroc également.
En face, les Ivoiriens ne veulent pas non plus s'emballer.
L'objectif, c'est pas de battre le Maroc et rentrer à la maison. Je vois pas à quoi ça servirait. Mais je répète, l'objectif, c'est de sortir des poules dans un premier temps et après, aller le plus loin possible. Maintenant, le plus loin possible, il y a des adversaires, il y a des faits de jeu et puis il y a nous-mêmes. Après, la compétition nous montrera nos limites, où on s'arrêtera. L'équipe du Maroc est une équipe assez forte qui connaît la compétition africaine. Mon avis, qui est solide défensivement et offensivement, ils sont capables d'amener de la variété à tout moment dans leur jeu. Donc, on n'a pas attendu le match de la Namibie pour le savoir.
Ibrahim Camara, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Valentin Ngoué revient sur ses deux rendez-vous dans son coup de sifflet depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. Après un Sénégal-Algérie dont le résultat a ramené plus de pondération parmi les parieurs, les poules D et E proposent ce vendredi deux autres chocs entre les nombreux prétendants au sacre final, puisque la Côte d'Ivoire croise le fer avec le Maroc, là où le Mali affronte la Tunisie dans des rencontres au profil relativement similaire. La Côte d'Ivoire et le Mali ont complètement fait la mue depuis la campagne 2015 en pariant sur la jeunesse. Chez les éléphants, Wilfried Canon, Lamine Koné, Jonathan Kodja ou Nicolas Pepe, brillantissime avec Lille, ont remplacé la deuxième vague de la génération dorée. Seuls Aurier et Gradel ont résisté à ce séisme. Le Mali, lui, a été plus audacieux dans sa politique de renouvellement en puisant abondamment dans l'énorme vivier que lui ont proposé les catégories inférieures qui réussissaient une véritable razzia dans les différentes compétitions des jeunes en Afrique ou dans le monde. Résultat, la moyenne d'âge de l'équipe malienne est la plus basse malgré la présence du vétéran Moussa Marega du FC Porto. Ces deux armadas de jeunes ont renversé l'Afrique du Sud et laminé la Mauritanie en première journée. Mais elles pourront être mieux jugées ce vendredi face au Maroc et à la Tunisie, deux véritables forteresses constellées de joueurs confirmés, en particulier le meneur de jeu de l'Ajax d'Amsterdam, Piech, et celui de Saint-Étienne, Kazri. Leurs équipes nationales ont également été présentes à la dernière Coupe du Monde. Vous l'avez compris, les matchs Côte d'Ivoire-Maroc et Mali-Tunisie s'apparentent donc à des conflits de génération qui verront la fougue et le culot des uns s'opposer à l'expérience et au métier des autres. Bien malin est celui qui arrivera à prévoir le résultat de cette double confrontation atypique.
Après ces deux rencontres phares, l'Afrique du Sud et la Namibie tenteront de se redonner un peu d'espoir dans cette compétition à 20h temps universel. Évoquons à présent l'aspect organisation même de cette CAN Égypte 2019. Des confrères présents sur place au Caire s'expriment là-dessus. Notre correspondant Sidina Abagé leur a tendu son micro.
L'organisation, elle est bonne, mais je trouve qu'en Guinée équatoriale et au Gabon, c'était meilleur parce que là, la connexion fait déjà défaut parce que vous savez que les journalistes travaillent avec l'Internet. Et également, la CAF a pris des dispositions nouvelles, ce qui pose également de réels problèmes aux journalistes parce qu'avant d'entrer dans ce stade, il faut des passes, médias, accréditation. L'accréditation ne suffit plus. Aux journalistes pour accéder au stade, il faut s'inscrire, c'est des difficultés.
Ça va, on s'attendait à pire parce que l'Égypte a pris l'organisation en cours. En quelques mois, ils ont essayé. Maintenant, bon, il y a un certain nombre de manques, comme le transport, etc. Les journalistes un peu souffrent de se déplacer vers des enceintes sportives, des stades qui sont à l'extérieur de la ville. Reste, les stades sont bons, les pelouses sont excellentes. En Afrique, généralement, on a des difficultés à ce niveau-là.
C'est tout pour le journal de la CAN.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Segudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Togolais sont appelés aux urnes le 30 juin pour choisir leurs élus locaux. Dans certaines communes, des débats publics sont organisés où les candidats présentent leur programme de société afin de permettre aux électeurs de pouvoir faire un choix judicieux. Avec notre correspondante sur place, Kayi Lawson, revenons sur celui qui s'est tenu mercredi dans la ville de Tchévi, à une trentaine de kilomètres au nord de Lomé.
Les candidats en liste dans la commune de Tchévi ont présenté ce 26 juin leur programme de société aux électeurs. Globalement, les projets se ressemblent à quelques nuances près. Pendant que les uns veulent s'attaquer à l'exode des jeunes à travers la création des centres de formation professionnelle, les autres veulent restructurer les marchés dans les 8 cantons que compte la commune. Tous les programmes disposent d'un volet infrastructure, que ce soit scolaire, sanitaire ou encore routière. Le débat public a été une bonne opportunité, nous dit le jeune Kafetine Roudja.
C'est une première à Kévier. Ce débat nous a permis d'écouter les candidats afin de pouvoir faire un bon choix. Parce que pour faire un choix, il faut écouter d'abord les gens qui vont venir nous conduire. Donc j'ai aimé le débat. Nous avons beaucoup de problèmes. Et particulièrement, nous avons un problème d'inondation. Puisque ça bloque le développement, quoi. Donc je voudrais bien voir ces élus locaux qui viendront à la mairie voir ce problème. Parce que c'est un problème très crucial, primordial à Kévier.
La particularité de ce débat est qu'il s'est déroulé en langue locale, permettant ainsi de toucher un large public. Et si Arlidia a apprécié cet aspect d'autant plus qu'elle ne s'exprime pas en français. Tous les électeurs ne comprennent pas le français. Du fait que le débat s'est tenu en évé, c'est une très bonne chose. Parce que nous voulons le développement de notre commune. Avec ce débat, on prend connaissance des projets de société des différents candidats avant le jour du scrutin. Organisé par la société civile togolaise, ces débats publics instaurent des échanges entre les candidats et les électeurs, loin des meetings de campagne électorale. Bernard Bokodien, coordinateur de l'association Nouvelle Alternative pour le développement durable en Afrique NADAF, il est l'un des organisateurs.
Les citoyens ont été satisfaits. Ils étaient vraiment contents parce que dans les meetings des candidats, il n'y a pas des questions sur des sujets pointus. C'est des meetings populaires où il y a des cris, des slogans. Et ils se séparent. Mais lors de ce débat-là, le modérateur les amène sur des problèmes quotidiens des populations. Et ça permet à ces candidats-là de pouvoir se perfectionner. Et aux citoyens de se rendre compte aussi qu'ils ont réellement des besoins qui ne sont pas encore pris en compte par les projets de société des candidats.
À la fin des débats, les candidats signent un mémorandum d'engagement, un document qui les contraint, une fois qu'ils seront élus, de rendre compte à leurs administrés des actions qu'ils sont en train de mener et d'autoriser les populations à faire le contrôle citoyen de l'action publique. Kayi Lawson, de retour de Tchévier pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Cameroun, on s'achemine vers une nouvelle prorogation du mandat des députés. Celle-ci devrait être de 2 mois à compter du 29 octobre prochain. Un projet de loi a été déposé cette semaine à l'Assemblée nationale. Les réactions avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julntap.
Mardi dernier, le président de l'Assemblée nationale a annoncé en séance plénière le dépôt pour examen d'un projet de loi portant prorogation du mandat des députés. Un scénario similaire s'était déjà produit en 2018, à l'issue duquel le président Paul Biya avait promulgué la loi prorogeant le mandat actuel des députés jusqu'au 29 octobre 2019. À cette date, visiblement, le gouvernement n'envisage pas la tenue de nouvelles élections législatives.
Les tests sont clairs dans notre pays, il faut qu'il y ait une gravité.
Patricia Ndamjoya, députée de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, un parti de l'opposition.
Il faut que ces raisons soient sérieuses pour qu'on en arrive à une prorogation par 2 fois du mandat.
Dans une correspondance dont VOA Afrique a obtenu copie, le président Paul Biya a saisi le 17 juin dernier le président de l'Assemblée nationale sur les mobiles de cette nouvelle prorogation. Pour l'exécutif camerounais, celle-ci vise à permettre le déroulement dans la sérénité de la session parlementaire du mois de novembre 2019, réservée à l'examen de la loi des finances et harmoniser les débats nécessaires à la tenue d'un double scrutin législatif et municipal. Fin de citation.
Tout le monde, le gouvernement, savons que de septembre, octobre 2013, que 2018 va venir.
Paul Ndi Toumassan, député du Social Démocratique Front, un parti de l'opposition représenté à l'Assemblée nationale.
Nous avons rien fait pour nous organiser pour accueillir 2018 avec ces élections et ensuite on est en train de proroger après 12 mois, c'est 2 mois, mais je ne sais pas ce que le gouvernement pensait.
En filigrane, la crise anglophone est évoquée comme la raison politique de cette nouvelle prorogation du mandat des députés. Robert Bapolipote, député UPC, un parti de la majorité présidentielle.
Le chef d'État n'a pas choisi d'aller à tout prix dans une élection, ce qui aurait porté en torse à notre volonté de trouver des solutions aux problèmes qu'on a aujourd'hui dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
En 2018, dans les deux régions anglophones, le taux de participation à l'élection présidentielle a été très faible. Gaston Komba, député RDPC, le parti au pouvoir.
Il était évident qu'on ne peut pas faire une élection où on exclut certains Camerounais du jeu électoral.
Les députés camerounais ont été élus pour la dernière fois en 2013 pour un mandat de 5 ans. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Gabon, le gouvernement a annoncé la création en août prochain d'une nouvelle société de transport public. Cette nouvelle intervient au moment où l'actuelle société traverse une zone de turbulence, nous dit de Libreville notre correspondant Ismaël Obiangze.
Sur les 276 bus dont disposait Sogatra, il ne reste qu'une trentaine en circulation. Le reste est immobilisé ou en panne. La société gabonaise de transport ne roule pas non plus dans la transparence, car sa gestion financière est opaque. Le personnel accuse la nouvelle direction générale de détournement des fonds qui étaient destinés au paiement des salaires. Des allégations rejetées d'un revers de la main par la tutelle. Justin Dundangoy, ministre gabonais des transports, invite les partenaires sociaux à faire preuve de retenue.
Le directeur général a été nommé par décret du président de la République. Il est le seul qui répond de la gestion devant la Cour des comptes, qui est une autre institution de la République, qui a des missions de contrôle de la gestion financière des structures étatiques. Au-delà des intérêts du gouvernement, il s'agit de la politique du président de la République. Et il faut qu'on cesse avec ces histoires, X a volé, Y a volé.
Malgré tout, le personnel persiste et signe. Simone Mbogo, délégué du personnel de Sogatra.
Le détournement est là parce que ceux qui ont fait des finances, quand on essaie de voir, une ligne budgétaire ne peut pas être détournée, une ligne budgétaire ne peut pas servir à une autre ligne budgétaire. Et donc l'exécution de la ligne budgétaire dont on fait état fait allusion au paiement des aérés de salaire.
Autre sujet qui fâche les employés, c'est le projet gouvernemental portant création d'une nouvelle société de transport public. Ils y voient une mise à mort de l'actuelle société, la Sogatra. Simone Mbogo.
Sogatra est déjà là, qui a déjà l'expertise. Maintenant, quand on crée une nouvelle société, c'est des questions que nous nous posons tous.
Nous avons commis plusieurs audits qui ont identifié les problèmes.
Monsieur Ilambi.
Bon, mais on connaît exactement ce qui n'a pas marché à Sogatra. Plusieurs audits ont identifié les problèmes. Donc on se dit qu'on aurait pu nous donner les moyens que l'État est en train de céder à la nouvelle entreprise. Vu que les problèmes ont été identifiés, et on serait reparti sous de nouvelles auspices, de manière à transporter les Gabonais tels que l'État le souhaite.
Selon le ministre gabonais des Transports, Transub, nom de la nouvelle société dont le lancement des activités est prévu pour mi-août prochain, ne va pas forcément absorber la Sogatra. Justin Dundangoy.
Je reste convaincu que deux entités peuvent marcher côte à côte. Nous développons des stratégies en interne pour que le secteur puisse revenir au moins 50-50 ou 60-40 aux nationaux. Raison pour laquelle nous continuons ce travail de prospection pour voir comment réhabiliter la Sogatra.
Depuis Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, retour sur la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue, commémorée tous les 26 juin. Elle a été marquée cette journée par l'organisation d'une conférence par les autorités et une séance d'incinération de drogue dure à la périphérie de la capitale. Et certains jeunes se mobilisent également pour sensibiliser la population aux méfaits des drogues. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Rien ne semble freiner le phénomène de la drogue. Pour la seule année 2018, le Burkina a saisi plus de 10 000 tonnes de cannabis, plus de 5 000 grammes de cocaïne et plus de 18 000 kg d'héroïne contre plus de 75 000 tonnes de médicaments prohibés. Il faudra davantage miser sur la sensibilisation, selon la secrétaire permanente du Comité national de lutte contre la drogue, la commissaire de police Pelagie Konsebo.
On a réussi à rassembler les structures opérationnelles pour un renforcement des capacités, déjà pour nous permettre d'avoir les statistiques fiables. On a eu également à renforcer les capacités du personnel de structures opérationnelles pour procéder à des sensibilisations, collaborant également avec les associations de la société civile pour augmenter le nombre de sensibilisations de la population.
Le visage de cette volonté de sensibilisation des jeunes au Burkina Faso est sans conteste l'artiste engagé Youssouf Sawadogo alias Oskibo. Loin des salons feutrés, l'artiste qui se droguait dans une autre vie a acquis une certaine notoriété dans la lutte contre la drogue avec sa caravane dénommée Oskimoto.
Ça nous fait 12 ans déjà que nous sensibilisons la jeunesse burkinabé et africaine. En tant qu'artiste, je me suis dit avec la musique, on pouvait vraiment teindre les jeunes, étant aussi quelqu'un qui a consommé la marijuana et d'autres substances dans le passé. Il y a plus de 15 ans, 20 ans aujourd'hui que j'ai arrêté. J'ai connu d'autres types de substances en milieu jeune, comme les bleus, la mitof, quand tu prends. C'est la nuit que tu peux te réveiller et tu t'es tenté de voler, agresser, bref, parce que quand ça te manque, il te faut ça.
Véritable problème de santé publique, les conséquences de la consommation de la drogue font l'objet de projets pour enquêter et dégager des statistiques afin de mieux orienter les décisions. Oskimo, qui arpente les villes et les campagnes à travers sa caravane, avait juste sa forte motivation comme seul soutien.
Ça m'a mis dedans. Beaucoup étaient en train de mourir, aller en prison, d'autres étaient devenus fous. Et je suis arrivé au Burkina pour la première fois en 2002, je voyais des jeunes qui avaient pété des plombs. J'ai dit, on dirait mon projet doit continuer. Et comme ça, j'ai commencé une activité Oskimo tout jeune prof sans drogue.
Oskimo est engagé dans un programme national qui encourage les parents à être à l'écoute de leurs enfants et la société dans son ensemble à prévenir des dangers de la drogue et développer la confiance en soi chez l'enfant et le jeune. 11 ans après, l'artiste est dissatisfait du chemin parcouru.
Le bilan est bien parce qu'il fallait le commencer. On a dépassé la barre des 50 000 parce que les étudiants ont été touchés par Oskimoto, les élèves dans les lycées, l'école primaire. J'ai été invité pour faire des formations parce qu'aujourd'hui, le tabou est en train de vouloir quitter. Et aujourd'hui, moi, j'ai rencontré plein de femmes dedans, qui ont leurs enfants dedans. Beaucoup veulent laisser, mais ils sont déjà devenus des toxicomanes. J'ai une expérience de la vie du ghetto que je peux donner, comment j'arrive même à causer avec eux. Parce que parfois, même les aborder, c'est pas facile.
Oskimo plaide pour l'ouverture d'un centre spécialisé et adapté à ce phénomène au Burkina Faso. L'artiste espère l'aboutissement de son vœu de zéro drogue à terme et ne plus avoir, comme c'est le clou à chaque journée internationale de lutte, à incinérer en plein air officiellement des drogues saisies, preuve de la résistance du phénomène. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Et Drissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.